Moi, j'ai juste une question. Comment on s'inscrit pour la paella? Il y a une feuille au fond du temple. Voilà, ok, ça marche. Le dimanche des rameaux. Bon, on y revient chaque année, hein. On va lire, partager deux textes ce matin. Relire le texte dans Zacharie 9:9, la prophétie qui s'accomplit à ce moment-là. Et puis, je vous ferai aussi une brève lecture, relecture, puisque grâce à David et à sa liturgie, on a pu déjà avoir le texte des rameaux, mais cette fois-ci dans l'évangile de Matthieu. Zacharie 9:9, tout simplement. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi. Il vient vers toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je retrancherai d'Éphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux. Les arcs de guerre seront retranchés. Il parlera de paix aux nations et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, relire le récit de la montée. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples, en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec lequel elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il vous laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Dites à la fille de Sion que son roi vient à lui, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon et mirent sur eux leurs vêtements pour qu'ils puissent s'asseoir. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres coupèrent des branches d'arbres et les étendirent sur le chemin. La foule précédait et suivait Jésus en criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra, toute la ville fut en émoi et on lui disait « Mais qui est celui-ci » Et les foules répondaient « Mais c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Deux textes. Le premier, un extrait du prophète Zacharie. On pense que Zacharie était un prêtre de l'Éternel et il a participé à reconstruire la muraille et le temple, sans doute, après le retour d'exil du peuple. Le peuple avait été déporté à Babylone, mais l'empire babylonien a été vaincu par l'empire des Perses. Et c'est Cyrus, roi de Perse, qui libéra le peuple et l'autorisera à rentrer dans son pays pour reconstruire le temple et les murailles. L'ironie, c'est que la Perse est devenue le pays qu'on appelle aujourd'hui l'Iran. Et c'était lui qui avait permis à Israël d'être libéré et de reconstruire le temple. Dans l'extrait que nous avons lu aujourd'hui, le prophète crie de joie et appelle tout le peuple de la capitale du royaume de Jérusalem à se réjouir. Il annonce que Dieu lui-même vient pour être le véritable roi de ce peuple. Les autres dirigeants qui se sont succédés sont soit des imposteurs, puisqu'ils abusent de leur pouvoir, soit des serviteurs qui essayent réellement de plaire à Dieu, mais aucun n'est le vrai roi, c'est l'Éternel. Le roi du peuple, même si le peuple l'a oublié depuis très longtemps. Et pourquoi est-ce que la venue de Jésus est une bonne nouvelle? Pourquoi est-ce que la venue de ce roi est une bonne nouvelle? D'abord parce qu'il est juste. Ensuite, il est victorieux. Et enfin, il est humble. Il est juste. On ne peut pas se l'approprier avec des cadeaux. Il ne peut pas être corrompu par de l'argent. Son langage, son discours, ses paroles sont fermes et ses jugements sont impartiaux. Il est juste. Il est victorieux, rien ne lui résiste et les nations seront soumises à sa volonté. Il ne sera pas vaincu par la guerre. Et enfin, il est humble. Son désir n'est pas centré sur lui-même, mais sur Dieu, qui l'appelle à servir son peuple. Donc un roi capable de repousser l'ennemi, d'assurer la paix face aux nations qui l'entourent, un roi capable de juger, d'apporter le droit dans le pays, et donc la paix à l'intérieur du pays, la paix à l'extérieur et la paix à l'intérieur, un roi capable de se soucier des plus grands comme des plus faibles, des plus riches comme des plus pauvres. Personne ne sera invisible à ses yeux. Alors oui, on comprend que la venue de ce roi-là soit une bonne nouvelle. Oui, que toute la ville se réjouisse et pousse des cris de joie. Oui, que tous sortent de la ville et viennent au devant de lui pour lui faire une haie d'honneur, pour exprimer qu'ils se réjouissent, qu'ils sont heureux de le voir arriver pour régner sur eux. Le récit du dimanche des rameaux rapporte comment Jésus a compris et obéi à la volonté du Père. Jésus savait que Dieu le voulait pour roi sur son peuple. C'était lui. Il savait donc que tout ce qu'il lui faudrait pour accomplir la parole du prophète Zacharie sera mis à sa disposition. C'est pour ça qu'on lit qu'il a envoyé les disciples chercher et trouver ceci ou cela, et que les disciples n'auraient aucun mal à obtenir ce que Jésus demandait. C'est comme si tout cela avait été programmé. Tout se passe comme si ça avait été arrangé à l'avance. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez cette phrase-là, et hop, il va vous laisser passer. Jésus savait simplement que rien ne résisterait à l'accomplissement de la parole de Zacharie. Et si le prophète Zacharie a écrit que le Messie viendrait sur un ânon, Jésus trouvera un ânon. Et si cet ânon appartient à quelqu'un, ce quelqu'un laissera l'ânon partir pour le Seigneur. Pour Jésus, le moment était venu d'accomplir cette parole de Dieu, de l'incarner auprès de son peuple. Il n'y a pas que Jésus qui a joué son rôle, il n'y a pas que l'ânon qui a joué son rôle dans la prophétie. La ville elle-même a obéi à la parole du prophète et elle s'est réjouie de la venue de Jésus. Elle a poussé des cris de joie, la cité est venue à sa rencontre, elle a été inspirée divinement. Ces moments paraissent magiques, presque surnaturels. Comme l'a rappelé David, quelques jours plus tard, cette même foule le crucifiera. Mais aujourd'hui, le roi arrive et il n'arrive pas sur un cheval de guerre, il n'arrive pas sur un char. Il ne fait aucune démonstration de puissance, non. Jésus fait une démonstration de douceur. Il vient sur un âne, un animal qui n'est pas taillé pour la guerre, mais pour le travail. Il ne vient pas sur un âne adulte, fort, robuste, dressé, mais sur un ânon sur lequel personne ne s'est encore assis, moins puissant, qui n'a pas été débourré sans doute, qui n'est pas habitué à l'obéissance. Et pourtant, le poids de Jésus n'est pas de trop pour lui. Pourtant, l'autorité de Jésus conduit cet ânon qui joue son rôle de monture. Peut-être y a-t-il là un message, un témoignage, à quel point Jésus est un bon roi. Mais voyez-vous, la venue de Jésus à Jérusalem et son intronisation comme roi des Juifs n'est qu'une petite partie de ce qui se joue véritablement. À travers cette couronne, que Jésus va recevoir de façon bien étrange, c'est la couronne du monde entier qui est en jeu. Pour nous, les chrétiens, le monde a été créé par Dieu beau et parfait, vous le savez. Et dans ce monde, il y avait ce jardin, cette montagne spéciale, d'où coulait une source pour irriguer le monde entier, l'Éden. Et dans l'Éden, Dieu avait placé son vice-roi et sa vice-reine pour exercer son pouvoir en son nom, Adam et Ève. Mais le diable a réussi une sorte de coup d'État, de tromper les humains et de prendre le pouvoir à leur place. Dès lors, les humains ont régné, oui, mais pas à la façon dont Dieu règne, mais à la façon dont Satan règne. Par la violence, la fraude, la menace, les abus, les intimidations, le chantage, l'entre-soi, la corruption. Vous connaissez tout cela par cœur. Mais il existe un trône dans le monde spirituel. Non pas un trône taillé pour Dieu, il existe aussi celui-là, mais un trône taillé pour un être humain, à taille humaine. Un trône qui, depuis la chute, est vide. Un trône sur lequel devaient s'asseoir Adam et Ève. Aucun humain ne mérite depuis de s'y asseoir. D'ailleurs, j'ai discuté avec les cathés et à l'étude biblique. Si nous devions donner les pleins pouvoirs sur le monde à quelqu'un, voilà, on organise une grande élection mondiale du gouvernant, du dirigeant du monde. C'est chaud. Comment est-ce que nous sélectionnerons les candidats ? Sur quelle base accepterions-nous que quelqu'un se présente, puisse être élu à la direction du monde ? Faut-il qu'il soit le plus fort, le plus sage, le plus riche, le plus populaire, le plus intelligent ? Quelle serait l'épreuve, le test à lui faire passer ? Dieu a considéré les humains longtemps. Il a déjà jugé la terre entière une fois par le déluge, en vain. Il a choisi un couple pour forger à travers ce couple, sa descendance, un peuple qui le connaîtrait, qui serait proche de lui, en se montrant à lui, en lui donnant une loi qui le reflète, en habitant au milieu de lui, mais en vain. Alors Dieu est devenu cet humain qui pourrait monter sur le trône vacant. Et alors Dieu s'est soumis lui-même au test, à l'épreuve. Quelle épreuve ? Il a fait cela parce qu'il ne voulait pas nous laisser sous le joug d'une autorité mortelle, toxique, vorace, celle du mal. Il voulait nous ouvrir un chemin vers le salut. Alors comment Dieu a testé son Messie, son Sauveur ? Comment va-t-il sélectionner celui qui va recevoir les pleins pouvoirs de la terre, être nommé dirigeant du monde ? L'épreuve est simple. Obéir à Dieu coûte que coûte. L'aimer jusqu'au bout. Cela veut dire ne jamais choisir le mal, ni en acte, ni en parole, ni en pensée. Cela veut dire ne pas vivre pour soi-même, mais vivre pour Dieu et pour son prochain. Cela veut dire aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme et de toute sa pensée. Et c'est cela ce que Jésus a fait et qu'aucun d'entre nous n'a jamais fait et ne fera jamais. La montée en Jérusalem que nous avons lue, c'est Jésus qui s'avance vers la conclusion de son épreuve, de son test, sa consécration ultime, la croix, l'obéissance jusqu'au bout. Alors qu'est-ce qu'on garde de ces textes ? Ces textes nous disent une chose simple, Le peuple de Dieu a été rebelle et rebelle et encore rebelle et désobéissant. Il a souillé son nom et fait le mal et l'offensé. Et comment est-ce que Dieu vient à la rencontre de son peuple? Comme un roi doux, humble et juste. Est-ce cela que nous imaginerions pour redresser un pays, nous? Ne choisirions-nous pas plutôt quelqu'un avec une poigne de fer, quelqu'un de déter, quelqu'un qui aurait les regards fixés sur son objectif et qui écraserait tous ceux qui iraient contre lui? Comment Dieu vient-il nous ramener à lui? Comment Dieu cherche-t-il ceux qui le fuient? Douceur, humilité et justice. Douceur, humilité et justice. Est-ce ainsi que vous imaginez Dieu venir à vous? Dieu venir vous chercher? Douceur, humilité et justice. Une parole vraie, une parole juste qui viendra de sa bouche, mais empreinte d'amour et de douceur. Aujourd'hui encore, Dieu vous cherche, si vous ne le connaissez pas, s'il n'est pas le Dieu de votre vie, il vous cherche. Et ce n'est pas un Dieu terrible, ce n'est pas un Dieu qui se réjouit de la mort du pécheur, ce n'est pas un Dieu qui prend le moindre plaisir à punir qui que ce soit. D'ailleurs, il s'est puni lui-même pour ne pas avoir à nous punir, nous, jusqu'à son retour. Aujourd'hui, encore, Jésus vient sur un ânon, non pas pour conquérir et dominer, mais pour aimer et se réconcilier. Les anarchistes proclament « ni Dieu, ni maître ». Je suis mon propre maître. Nous, chrétiens, nous n'envisageons pas que notre vie puisse être mieux sans Dieu et sans maître. Nous, chrétiens, croyons qu'une bonne autorité, qui ressemble à Jésus, elle bénit. Nous croyons que l'autorité de Dieu sur notre vie nous bénit. Nous avons un Dieu, c'est l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Nous avons un maître, un roi, et nous sommes ses serviteurs, ses sujets. Notre roi, c'est Jésus-Christ, le doux, l'humble et le juste. Qui règne sur votre vie? Qui oriente votre vie? Qui la dirige? Qui lui donne du sens? Qui suivez-vous? Qui admirez-vous? Que voulez-vous devenir? Nous répondons, Jésus. C'est lui que nous suivons. C'est lui qui donne le sens, la direction. Et c'est à lui que nous voulons ressembler. Jésus règne sur nos vies. Puissiez-vous chaque matin vous lever, Seigneur, ton serviteur, ta servante se lève. Puissiez-vous tous les soirs vous coucher, Seigneur, merci d'avoir passé la journée avec moi, je me couche, à demain. Puissiez-vous, entre ces deux temps de votre journée, chercher à lui obéir. Et vous savez, vous entendez cette voix. Votre conscience est éveillée. Vous êtes des disciples et votre oreille est habituée ou elle s'habituera à entendre ce que le Seigneur attend de vous. Mais c'est un murmure doux, humble. On le repousse d'un revers de la main. On le remet à plus tard, en une fraction de seconde. Rien ne nous oblige à lui obéir. Rien ne nous oblige à lui obéir. Certainement pas lui. Mais il vient à nous monter sur un ânon, plein de douceur et d'humilité. Peut-on rêver mieux? Voulons-nous un autre roi? Avons-nous besoin pour être obéissants de menaces, de sanctions, de bâtons? N'avons-nous pas eu assez de ça dans notre histoire? Alors quand un roi vient à nous, humble et doux, obéissons. Choisissons-le à notre tour. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen.